Voilà, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être connectés et de donner du temps ce soir pour écouter, pour étudier la parole de Dieu avec moi. Je me sens bien petit face à l'épître aux Romains, mais l'Esprit Saint est avec nous et nous avons la parole de Dieu inspirée. Voilà, ce soir, nous avons le privilège de nous plonger dans un chapitre merveilleux. Les effets de l'Évangile dans Romains au chapitre 5. Et juste pour rappeler d'où nous venons dans l'épître, j'affiche ici où, le plan qui nous a été donné. Donc le premier chapitre, l'Évangile introduit de 1 à 15. Ensuite, nous avions dans les versets 16 et 17 du premier chapitre, l'Évangile expliqué. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, puis aussi pour le grec. Ensuite, dans les trois premiers chapitres, l'apôtre Paul s'est efforcé de démontrer le besoin universel de l'Évangile. Il a montré comment tout homme, qu'il soit juif ou païen, éduqué ou ignorant, tout homme est pécheur, tout homme est perdu sans Jésus-Christ et sans l'Évangile. C'était trois chapitres difficiles, mais c'était un peu le fondement nécessaire sur lequel nous construisons depuis. Si tout homme est pécheur, d'où viendra son espoir? Eh bien, dans le chapitre 3, du verset 21 au 31, nous avons eu le fondement et le contenu de l'Évangile. C'est un chapitre, une fin de chapitre très dense théologiquement, où nous avons examiné les mots justification, rédemption, expiation. Et nous avons vu vraiment le noyau dur de l'Évangile, on peut dire. Ensuite, s'est posé une question, est-ce que la justification par la foi était une invention nouvelle de l'apôtre Paul? Ou est-ce que c'était dans le plan de Dieu depuis le départ? Et effectivement, chapitre 4, il nous montre que l'Évangile est totalement en harmonie avec l'Ancien Testament, que les saints de l'Ancien Testament n'étaient pas justifiés par leurs œuvres, mais bien aussi par la foi. Et il en donne deux exemples, l'exemple d'Abraham et l'exemple de David. Et en donnant ces exemples, à la fin du chapitre 4, il applique tout cela à nous en disant, voilà ce que vous devez croire pour être sauvés. Donc nous devons croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. C'est ainsi maintenant que nous arrivons ce soir dans le chapitre 5, les effets de l'Évangile. Je pense que pour tout le monde, les chapitres 5, 6, 7, 8 de l'Épître aux Romains font partie de leurs chapitres préférés de la Bible. Donc, c'est pour moi un honneur ce soir d'entamer ce qu'on pourrait appeler le cœur de cet Épître, les effets de l'Évangile dans le chapitre 5. Par la suite, donc, le mois prochain, vous aurez une vie sainte au moyen de l'Évangile dans le chapitre 6, et ça deviendra vraiment très, très pratique pour notre foi chrétienne. Donc ce chapitre 5, nous pouvons très facilement diviser en deux grandes parties. Première partie du verset 1 au verset 11, les fruits de la justification par la foi. Et puis une deuxième partie, un peu plus compliquée peut-être, que nous avons appelé le mécanisme de la justification par la foi. Alors, si ça vous paraît un peu mystérieux pour l'instant, nous le comprendrons plus par la suite. Mais allons-y maintenant pour cette première partie, les fruits de la justification par la foi. Cette première partie, on va aussi diviser en plusieurs sous-parties. J'ai quatre grands points. Premier point, le premier fruit de la justification par la foi, ce sera la paix avec Dieu. Verset 1, deuxième fruit de la justification par la foi, l'espérance. Verset 2. Un troisième fruit de la justification par la foi, la persévérance dans l'épreuve, les versets 3 et 4. Ensuite, il nous démontrera la certitude de cette espérance. Pourquoi est-ce que nous pouvons être certains que ces choses sont vraies et qu'elles vont s'accomplir? Ben, trois raisons. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné comme garant. Verset 5. Parce que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel, comme il le montre dans les versets 6 à 8. Et puis parce que nous sommes déjà réconciliés avec lui dans les versets 9 à 11. Voilà le plan de ce que nous ferons dans cette première partie. Donc, lisons ce premier verset qui est très important. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi ou justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez la Bible et que vous voyez le mot donc, il vous faut vous arrêter et réfléchir. Il s'agit d'une conjonction de coordination. Et ces conjonctions de coordination vont nous montrer l'articulation entre deux pensées ou entre deux textes. Il y a ici donc une articulation et une transition. Et il nous faut comprendre pourquoi. Quand vous lisez la Bible, j'aime bien cette image. C'est un peu comme si vous étiez en voiture, vous êtes en train de suivre un autre conducteur qui est devant vous. Cette personne doit vous amener peut-être chez lui, par exemple. C'est avant l'époque des GPS, donc vous n'avez pas le GPS. Votre seul moyen d'arriver au bon port est de bien suivre le conducteur qui est devant vous. Alors, pour cela, vous prêtez toute votre attention sur la route et sur ce que fait le conducteur devant vous. Et lui, puisqu'il sait qu'il vous suit, il veut indiquer tout changement de direction. Donc il mettra son clignotant bien en avant, il ralentira pour tourner ensuite à droite ou à gauche. Alors ce mot donc, c'est un clignotant que nous donne l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui signifie? Nous avons eu en amont le fait que tous les hommes sont condamnés sans Christ, sans l'Évangile. Nous avons vu qu'on peut être sauvé par la foi en Christ seul, qui nous justifie, qui est le moyen de la rédemption, de l'expiation, la propitiation. Nous avons vu que ça a toujours été le cas dans l'Ancien Testament. Maintenant se pose la question, et alors? Et alors? Qu'est-ce que cela change dans ma vie? Qu'est-ce que cela change dans ta vie de savoir que tu es justifié par la foi? Eh bien, quelque chose de très important, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Notez qu'on ne pourrait jamais dire, étant justifié par les œuvres, si cela était possible, nous avons la paix avec Dieu. Il est impossible d'avoir la paix avec Dieu basée sur nos œuvres, parce qu'on se poserait toujours la question, est-ce qu'on en a fait assez? Est-ce que Dieu est satisfait? Mais déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Pourquoi avions-nous besoin d'avoir la paix avec Dieu? Eh bien, il faut nous référer à un verset clé, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Jusqu'à présent, l'apôtre Paul nous a laissés plus ou moins sous la colère de Dieu. Mais à la fin du chapitre 3, il a annoncé le salut. Avant, nous étions ennemis de Dieu. Maintenant, nous avons la paix avec Dieu. Je vous pose une question, j'aimerais que vous y réfléchissiez. La paix dont il parle ici, est-ce une paix subjective ou une paix objective? Avant de répondre à cette question, il nous faut réviser un petit peu ce que nous entendons par subjectif et objectif. Ce qui est subjectif est relatif, relatif à la personne qui observe, qui ressent quelque chose. C'est relatif au sujet. Ce qui est objectif est en dehors de la personne qui observe. C'est quelque chose de mesurable, quelque chose de stable, qui n'est pas relatif et qui ne dépend pas de la personne qui observe, réfléchit, voit, analyse. Un exemple. Si nous étions tous dans une pièce, les uns pourraient dire, il fait chaud ici, j'enlève mon pull. Les autres pourraient dire, il fait froid ici, je mets mon pull. Et pourtant, ils sont tous dans la même pièce, mais chacun ressent la température de manière différente. Chez nous, mon épouse a toujours froid et moi un peu moins. C'est subjectif. Par contre, nous avons dans notre maison un thermomètre. Le thermomètre, lui, est objectif. Il dit, par exemple, il fait 20 degrés dans la maison. Ce n'est pas discutable. Nous revenons à notre question. Quand l'apôtre Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, veut-il dire que cette paix est subjective ou objective? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de ressenti ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose d'indépendant de nous-mêmes et qui serait objectif? J'aimerais affirmer ici que l'apôtre Paul parle d'une paix objective. Là, nous allons comparer. La paix subjective est une paix qui est ressentie ou peut-être pas. Alors que la paix objective est quelque chose de statutaire, c'est-à-dire que Dieu a déclaré que nous avons la paix avec lui. Un peu comme si quelqu'un signait à la fin d'une guerre une réconciliation. Un papier formel est signé. Une fois que c'est signé, la paix est établie. Qu'elle soit ressentie ou pas, la paix est bel et bien là. Peut-être qu'à la fin de la Deuxième Guerre entre la France et l'Allemagne, la paix a été signée à un moment donné. Mais peut-être que pendant plusieurs mois ou années, il y avait des mauvais sentiments d'un côté et de l'autre. Pourtant, la paix était signée. Ainsi, certains chrétiens peuvent ne pas ressentir la paix avec Dieu, et pourtant, Dieu a signé notre paix. Une paix subjective pourrait ne pas être réelle, c'est-à-dire que je pourrais me sentir en paix avec Dieu et ne pas l'être. C'est le cas, malheureusement, de certaines personnes qui pensent être suffisamment bonne pour faire face au jugement de Dieu sans s'appuyer sur le sang de Christ. Ils pensent être en paix avec Dieu, mais ils ne le sont pas. La paix objective est déclarée par Dieu. Il faut qu'elle soit déclarée par la personne offensée. Si je venais chez vous et que je cassais votre ordinateur, vous ne seriez pas bien content, mais si de suite après je vous disais, mais ça va, nous sommes en paix, vous me diriez peut-être, et vous aurez raison, attendez, ce n'est pas à vous, Brad, de déclarer la paix, c'est vous qui avez commis l'offense. C'est à la personne offensée de déclarer la paix. Ainsi, Dieu a déclaré la paix avec nous par Jésus-Christ. La paix subjective est fluctuante. C'est un jour je l'ai, un jour je ne l'ai pas. Alors que la paix avec Dieu est immuable, j'ajouterai éternelle. Une paix subjective serait, si j'ai bien agi, je me sens en paix. Or, cette paix objective a été acquise par quelqu'un d'autre à ma place. Elle ne dépend pas de moi et de mes actions. S'il s'agit d'une paix subjective, je vais regarder à moi-même pour savoir si j'ai la paix ou pas Or, la parole de Dieu nous apprend à regarder à Jésus-Christ et à ce qu'il a fait pour nous pour être en paix. Donc, quand il s'agit d'une paix subjective, quelqu'un pourrait dire « j'ai la paix dans le cœur ». Ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul ici. Il ne parle pas de paix dans le cœur. Il parle de la paix avec Dieu. Alors, bien sûr, quand nous avons compris ces choses, et j'espère que vous les avez bien compris, cela nous procure aussi un sentiment de paix parce que nous faisons confiance à Jésus-Christ et la paix que lui a obtenue entre Dieu et nous. Si je peux donner un mot de témoignage personnel, quand j'ai enfin compris la justification par la foi qui donne la paix avec Dieu, ça a été comme un bouleversement dans ma vie chrétienne. Cela m'a donné une confiance pour l'avenir, une confiance pour le quotidien, que de me savoir réconcilié avec Dieu. Et une joie pour servir le Seigneur. En fait, quand l'apôtre Paul parle de paix avec Dieu, il parle de la réconciliation, plus qu'un quelque chose de ressenti. Il parle d'une relation restaurée. On voit ça dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Nous avons le mot réconciliation à trois reprises dans le chapitre 5 de l'épître aux Romains, verset 10, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils. Un peu plus loin dans le verset 10, maintenant que nous sommes réconciliés. Et puis le verset 11, Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Donc, quand l'apôtre Paul nous dit que nous avons la paix avec Dieu, il veut dire que notre relation avec Dieu a été restaurée. Il nous a connectés avec Dieu, il nous a fait entrer dans la famille de Dieu et nous sommes dans un état réconcilié avec lui. Nous sommes dans la paix avec Dieu. Nous avons parlé du premier fruit de la justification par la foi, qui est la paix avec Dieu, merveilleuse paix. Il y a un deuxième fruit qui va développer au verset 2, il s'agit de l'espérance. Nous allons regarder cela maintenant. Romains 5, verset 2. C'est aussi par son intermédiaire, c'est-à-dire par l'intermédiaire de Christ, que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Donc, l'apôtre Paul nous rappelle par quels moyens, à nouveau, nous avons accès à toutes ces choses, à la paix, à l'espérance. C'est par Christ. Christ est vraiment le centre de l'évangile. L'évangile, c'est l'histoire de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Il s'agit aussi d'une grâce. Nous n'avons rien mérité pour être en paix avec Dieu. Il s'agit aussi de tenir ferme dans cette espérance. Nous tenons ferme par la foi. La foi est l'entrée dans la vie chrétienne, mais la foi est aussi le quotidien de la vie chrétienne. Nous avons vu ça dans le premier chapitre de l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 17. L'apôtre Paul a dit, c'est par la foi et pour la foi. Alors, cette expression un petit peu énigmatique a été traduite autrement dans d'autres traductions. J'aime bien celle qui dit, je crois que c'est la Bible en français courant cette fois-ci, c'est par la foi du début à la fin. Donc, je suis sauvé par la foi et je marche par la foi. C'est ainsi que je tiens ferme dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Grâce, nous avons mentionné ça, dans laquelle nous tenons ferme, nous l'avons mentionné. L'apôtre Paul a un raisonnement très serré dans l'épître aux Romains. Ici, il parle de l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Il veut qu'on se rappelle d'autres choses. Il veut qu'on se rappelle du chapitre 3, verset 23, où il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous voyons que l'évangile est passé par là, alors qu'avant de croire en Jésus-Christ et son œuvre pour nous, nous étions privés de sa gloire. Nous avons dit que ça voulait dire privés de sa présence, privés du rayonnement de sa gloire, de tout ce qui est positif en Dieu, tout ce qui rayonne de lui, son amour, la lumière. Nous étions privés de cela. Mais maintenant que nous avons été réconciliés avec lui, nous avons l'espérance de prendre part à cette gloire. C'est un des thèmes de l'épître aux Romains qui est la glorification. Et vous verrez au chapitre 8 que ce que Dieu a appelé justifié, il les a aussi glorifiés, c'est-à-dire qu'il vous a mis en route pour partager la gloire même de Christ. Troisième fruit de la justification par la foi, la persévérance dans l'épreuve, sont les versets 3 et 4. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Donc à la paix et à l'espérance, il rajoute bien plus la persévérance dans l'épreuve. Pourquoi est-ce que la persévérance dans l'épreuve serait un fruit de la justification? Quel est le lien entre la justification par la foi et la persévérance dans l'épreuve? Je vous laisse réfléchir un instant. Il me semble que le lien entre la justification par la foi et la persévérance dans l'épreuve, c'est que puisque nous sommes justifiés, nous sommes absolument certains de notre avenir éternel avec Christ dans la gloire. Puisque nous sommes certains de cela, cela nous permet de persévérer dans les épreuves du quotidien. Nous ne vivons pas ces épreuves comme si Dieu ne nous aimait pas. Nous nous savons aimer. Nous ne vivons pas ces épreuves comme si Dieu voulait se débarrasser de nous. Pas du tout. Ces épreuves sont destinées à notre sanctification. Nous sommes en route pour la gloire. Nous avons été justifiés. Cela donne du recul sur nos épreuves. Je vous donne un exemple. Supposons que vous recevez notification d'un notaire. Vous venez d'hériter d'1 million d'euros de je ne sais qui, votre grand-père. Et vous êtes en route pour aller chez le notaire qui vous a envoyé cette lettre et qui va vous faire signer un papier et puis l'argent sera à vous. En route, vous êtes arrêté par un petit bandit qui vous demande l'argent dans votre portefeuille. Dans votre portefeuille, vous avez 50 euros. Donc, vous lui donnez l'argent et il s'en va. Un autre jour, si vous n'alliez pas chez le notaire ce jour-là, vous serez bien contrarié par ce vol. Je viens de perdre 50 euros. Vous pourriez râler, être mécontent, etc. Mais ce jour en particulier, ça ne vous affecte guère. Pourquoi? Parce que vous êtes en route pour un héritage certain d'1 million d'euros. Et les 50 euros perdus vous paraissent bien peu, bien pâle par rapport à votre héritage. De la même manière, l'apôtre Paul dira, on ne peut pas comparer la gloire à venir avec les légères afflictions d'aujourd'hui. Donc, nous allons persévérer dans l'épreuve parce que nous sommes justifiés par la foi et certains de notre avenir. En réalité, ça fait référence à ce que les théologiens appellent la tension entre le déjà et le pas encore. Le déjà, nous sommes justifiés, nous sommes justes devant Dieu. Nous ne serons jamais plus justes que ce que nous sommes aujourd'hui devant Dieu, parce que nous sommes totalement justes dans le Christ, en Christ. Mais d'une autre manière, nous ne sommes pas encore justes dans notre comportement. Nous vivons un peu ces deux réalités en même temps. Voici quelques exemples seulement que je ne vais pas développer. Nous sommes déjà rachetés. 1 Corinthiens 6, 20. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Mais en même temps, la Bible dit que nous attendons la rédemption de nos corps, Romains 8, 23. Donc, rachetés et en attendant la rédemption. Nous faisons déjà partie du royaume de Dieu. Colossiens 1, 3, Dieu vous a transféré dans des royaumes des ténèbres vers le royaume de lumière de son Fils. Nous sommes dans le royaume, mais nous prions chaque jour que ton règne vienne. Le royaume est là et le royaume est à venir. Nous sommes déjà l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Éphésiens 5, 32. Mais en même temps, l'Apocalypse nous apprend que nous attendons les noces de l'agneau. Donc nous sommes à la fois l'épouse et la fiancée. Nous sommes déjà ça, nous le savons, mais nous devons nous sanctifier. Nous sommes déjà glorifiés, déjà dans la gloire selon Romains 8, 30, 8, 30, mais nous attendons la gloire selon le verset 3 que nous venons de lire. Nous sommes déjà fils de Dieu, bien sûr, on se dit fils, enfant de Dieu, mais Romains 8, 23 dit que nous attendons l'adoption. Donc, tout ceci pour dire que oui, nous sommes justifiés par la foi, oui, nous avons l'espérance de la gloire, mais oui, nous avons aussi des épreuves, mais nous pouvons grandir dans ces épreuves, puisque nous nous savons justifiés. Quelle certitude avons-nous que nous serons justifiés? Versets 5 à 11, trois certitudes différentes. Nous entrons ici dans ce que j'appelle la dimension eschatologique de la justification par la foi. La justification par la foi est un package qui contient plusieurs choses. C'est à la fois un point dans le temps, le moment où j'ai cru, j'ai été régénéré par l'Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu mon salut. En même temps, j'ai reçu le Christ et j'ai reçu tout ce que j'ai en Christ, y compris la vie éternelle et la gloire de Dieu. C'est ce qu'il nous dira plus tard au chapitre 8. Il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à son Fils Jésus-Christ. Il nous a donc appelé, c'était peut-être le moment de notre justification, il nous a justifiés et puis glorifiés. Tout cela est vrai maintenant et pour toujours. Chapitre 5, verset 5. Nous sommes certains de ces choses grâce à l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ou un peu plus tard dans le chapitre 8, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Un des rôles principaux de l'Esprit Saint, c'est de nous garantir notre espérance. C'est ce qu'on appelle être scellé du Saint-Esprit. J'ai une petite illustration. J'ai un ami qui a adopté un enfant à Madagascar. Cet enfant était déjà relativement grand quand il est parti à Madagascar pour adopter cet enfant. Il avait 5 ou 6 ans. Il y avait eu auparavant deux autres familles qui avaient voulu adopter cet enfant, mais qui ont arrêté le processus d'adoption. L'enfant était conscient de ces choses. C'est alors que quand le directeur de l'orphelinat a dit, il y a une nouvelle famille qui veut t'adopter, l'enfant était dans l'anxiété. Mon ami a pris 3 mois d'absence de son travail. Il est parti à Madagascar et il est resté pendant 3 mois avec l'enfant dans l'orphelinat en attendant que les papiers soient finalisés au niveau de l'État. Pendant ce temps, il montrait des photos de sa nouvelle maison en France, de sa future maman, de ses futurs frères et sœurs, puisqu'il y en avait, du chien, de l'école où il allait aller, etc. Je trouve que pendant ces 3 mois, le rôle de mon ami auprès de cet enfant était comme le rôle du Saint-Esprit auprès de nous. Nous ne sommes pas encore dans la gloire, même si la gloire est certaine, et lui, il est là pour nous parler de cette gloire à venir. Il nous parle du Seigneur Jésus. Il nous parle de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, de tout ce qui arrivera. Et il nous dit sans cesse, ces choses sont vraies, cela va vraiment arriver. Et il répand dans notre cœur l'amour de Dieu. Deuxième preuve que cette espérance est certaine, nous le savons parce que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. C'est-à-dire que ça ne va pas dépendre de moi. Versets 6 à 8. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Magnifique passage. Nous avons ici un fait dans l'histoire. À un moment fixé, Dieu est intervenu. Le Christ est venu. Il est mort pour nous. Nous voyons notre condition à ce moment-là. Alors que nous étions encore sans force, et puis il insiste encore, alors que nous étions encore des pécheurs. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ était sur la croix et qu'il pensait à tous les rachetés futurs, il ne se disait pas, qu'est-ce qu'elles sont belles ces personnes, qu'est-ce qu'elles sont admirables, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Je meurs pour elles parce qu'elles le méritent bien, parce qu'elles le valent bien. Pas du tout. Nous étions des pécheurs. Nous étions sans force. C'est par miséricorde que Christ est mort pour nous, par amour inconditionnel. Nous voyons aussi la substitution pénale de Christ pour nous. Il est mort pour des pécheurs. Christ est mort pour nous. La mort à la croix de Jésus est une substitution. Il prend notre peine pour nous. Et on voit que cet amour est incomparable. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour. Donc si Dieu m'a aimé d'un amour inconditionnel, il continuera à m'aimer, à vous aimer d'un amour inconditionnel. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Fin du chapitre 8. Et puis pour finir cette section, nous avons la certitude de cette espérance parce que nous sommes déjà réconciliés avec lui. Versets 9 à 11, lisons. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par grâce, pardon, avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. Nous sommes en présence d'un argument qu'on appelle a fortiori. un argument a fortiori a deux parties, deux arguments, si vous voulez, on considère que ces arguments appartiennent à la même catégorie. La première partie de l'argument est considérée comme donnée, comme allant de soi, comme acceptée par tous. Puisque cette première partie est acceptée, cela coule de source que la deuxième partie est aussi vraie et de manière encore plus importante. Nous l'avons ici à deux reprises. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Ou nous avons été réconciliés avec Dieu lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés maintenant que nous sommes réconciliés. Donc tout simplement, il nous dit, si Dieu a sauvé même ses ennemis, il sauvera aussi ses amis, à plus forte raison. Et maintenant, nous sommes les amis de Dieu, nous sommes réconciliés avec lui. Nous n'avons pas à craindre le jugement à venir. Au contraire, nous avons à nous réjouir par anticipation de la gloire à venir. On peut remarquer que dans le verset 10, le salut est conjugué en trois temps, passé, présent et futur. Nous avons été réconciliés avec Dieu, passé. Nous sommes réconciliés, présent. Nous serons sauvés, verset 10, futur. Donc le salut, comme j'ai dit, est un package passé, présent, futur, mais c'est tout lié et inséparable. Donc je peux dire, j'ai été sauvé tel jour où j'ai cru. Je peux dire aussi, aujourd'hui, je suis sauvé et que Dieu me sauve encore. Et je peux dire, je serai sauvé lors du jour du jugement. Il y a une petite curiosité. Il est dit au verset 10 que nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie. Si je vous avais posé la question avant de montrer ce verset, comment Jésus nous a-t-il sauvés? Vous auriez peut-être répondu, il nous a sauvés par sa mort sur la croix. Vous auriez raison, mais pas totalement, puisque nous sommes sauvés aussi par sa vie. Pourquoi? Je vois deux explications. D'abord, la résurrection. Chapitre 4, verset 25, lui, donc Jésus, qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Donc, en fait, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui participent à notre salut. Sans la résurrection, la mort de Jésus n'aurait pas suffi pour notre salut. Et la résurrection fait donc partie intégralement de la prédication de l'Évangile. Si vous ne parlez pas de la résurrection de Christ, vous n'avez pas donné tout l'Évangile. Mais puisque nous parlons aussi du salut futur, au jour de la colère de Dieu, au jour du jugement, je pense que l'apôtre Paul fait référence aussi au ministère actuel de Jésus en tant qu'intercesseur pour nous. Au chapitre 8, nous lirons qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, que fait Jésus-Christ aujourd'hui? Il est vivant, il est au ciel, il ne tourne pas les pouces, il est actif, il intercède pour nous. Alors, quelquefois, les gens imaginent cette intercession comme Jésus qui prie peut-être pour nous lors d'une difficulté, une épreuve, peut-être, peut-être. Mais ici, dans le contexte, l'intercession de Christ intervient vis-à-vis de la condamnation, vis-à-vis de l'accusation de l'adversaire. Dans le chapitre 8, qui les condamnera? Eh bien, pas de souci, Christ intercède pour nous. C'est-à-dire, Jésus est à la droite de Dieu, il montre ses mains transpercé pour nos péchés. Et sa présence, son intercession continuelle nous sauve et nous sauvera. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie, du verset 1 au verset 11. Je laisse notre animateur revenir pour des questions, s'il y a des questions. Et après, nous prendrons une petite pause.
Merci Brad pour cette première partie. Alors pour le moment, il n'y a pas de questions. Je crois que tes explications sont tellement bonnes.
On va espérer que c'est ça.
Alors, je vous propose de faire une pause de 5 minutes. On reprend pour la deuxième partie de cette formation sur le chapitre 5 des Romains. Alors, à tout à l'heure, bonne pause et on se réjouit de continuer à étudier ce texte.